From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session of
Depuis Temple Square à Salt Lake City, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche matin de la 189e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Les chants de cette session seront interprétés par le chœur du tabernacle à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 189e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons une très fraternelle bienvenue aux personnes du monde entier qui suivent cette session, à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou encore par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux de l'Église qui assistent à cette conférence ce matin. Les chants de cette session seront interprétés par le chœur du tabernacle à Temple Square, et la musique dirigée par Mac Wilberg avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « Sing praise to him » et interprétera à présent « Quel fondement ferme ». Bradley Foster des 70 fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « Je ressens son amour ».
our Heavenly Father,
notre Père Céleste, en ce matin de sabbat, nous inclinons la tête humblement en expression de la reconnaissance que nous éprouvons pour toi par la prière, comme nous sommes reconnaissants pour ce magnifique plan de salut que tu as pour tes enfants, quelle que soit l'époque où ils vivent sur la terre. Nous te remercions de l'occasion que chacun d'entre nous a d'être frères et sœurs pour nous aider à retourner en ta présence. Nous aimons et apprécions beaucoup les apôtres vivants qui nous aident à voir clairement ton sentier. Père, bénis ceux qui ont préparé des messages pour nous aujourd'hui. Aide-nous à ressentir par le pouvoir de l'Esprit ce que nous avons besoin de recevoir aujourd'hui à travers la révélation personnelle. Et nous prions que le Saint-Esprit grave ces choses sur notre cœur pour que nous les mettions en pratique. Au nom de Jésus-Christ, le nom de ton Fils qui peut tout faire pour nous, à savoir Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Dale Rendlen du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Sharon Eubank, première conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours. Quentin Cook, du Collège des Douze Apôtres, nous adressera ensuite la parole.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs,
our Heavenly Father and Jesus Christ,
notre Père Céleste et Jésus-Christ désirent bénir chacun d'entre nous. La question de savoir comment nous obtenons ces bénédictions fait l'objet de débats et de discussions théologiques depuis des siècles. Certaines personnes affirment que les bénédictions sont quelque chose que nous gagnons, que nous ne les recevons que par nos efforts. D'autres soutiennent que Dieu a déjà choisi qui il bénira et comment, et que ce qu'il a déterminé est immuable. Ces deux opinions sont foncièrement incorrectes. Les bénédictions du ciel ne se gagnent ni en accumulant frénétiquement des coupons de bonnes actions, ni en attendant désespérément de voir si nous avons gagné à la loterie des bénédictions. Non, la vérité est beaucoup plus nuancée, mais plus appropriée à la relation entre un Père céleste aimant et ses héritiers potentiels, nous. La vérité rétablie révèle qu'on ne gagne jamais les bénédictions, mais que nos actes inspirés par la foi sont essentiels au début et constamment par la suite. Lorsque nous réfléchissons à la façon dont nous recevons des bénédictions de Dieu, nous pouvons les comparer à un énorme tas de bois. Imaginez qu'au centre se trouve un petit tas de brindilles surmonté par une couche de copeaux. Ensuite, vous avez des petites bûches et pour finir, de gros rondins. Ce tas de bois contient une grande quantité de combustible, capable de produire de la lumière et de la chaleur pendant des jours. Imaginez qu'à côté du tas de bois se trouve une seule allumette, du genre qui a un bout en phosphore rouge. Pour que l'énergie du tas de bois soit libérée, il faut frotter l'allumette et mettre le feu aux brindilles. Les brindilles s'enflammeront rapidement et embraseront les plus gros morceaux de bois. Une fois que la réaction de combustion est lancée, elle se poursuit jusqu'à ce que tout le bois soit brûlé ou que le feu soit privé d'oxygène. Frotter l'allumette et allumer les brindilles sont de petites actions qui permettent de libérer l'énergie potentielle du bois. Tant qu'on ne frotte pas l'allumette, rien ne se passe, quelle que soit la taille du tas de bois. Si l'on frotte l'allumette, mais qu'on ne l'approche pas des brindilles, la quantité de lumière et la chaleur qu'elle va dégager toute seule est minuscule et l'énergie de combustion du bois n'est pas libérée. À tout moment, si l'oxygène n'est pas disponible, la combustion s'arrête. De la même manière, la plupart des bénédictions que Dieu désire nous donner nécessitent une action de notre part, une action basée sur notre foi en Jésus-Christ. La foi au Sauveur est un principe d'action et de pouvoir. Premièrement, nous agissons avec foi. Ensuite, vient le pouvoir selon la volonté et le calendrier de Dieu. Cet enchaînement est crucial. Toutefois, l'action requise est toujours infime comparée aux bénédictions que nous recevons à la fin. Réfléchissez à ce qui est arrivé jadis lorsque des serpents brûlants et volants se sont répandus parmi les Israélites qui étaient en route vers la terre promise. La morsure des serpents venimeux était mortelle, mais tous ceux qui avaient été mordus pouvaient être guéris en regardant un serpent en bronze que Moïse avait fabriqué et placé sur une perche. Combien d'énergie faut-il dépenser pour regarder quelque chose? Tous ceux qui regardèrent accédèrent au pouvoir des cieux et furent guéris. D'autres Israélites qui avaient été mordus ne regardèrent pas le serpent de bronze et moururent. Peut-être n'avaient-ils pas la foi pour regarder. Peut-être ne croyaient-ils pas qu'un geste aussi simple pouvait entraîner la guérison promise. Ou peut-être s'étaient-ils volontairement endurci le cœur et avaient-ils rejeté la recommandation du prophète de Dieu. L'activation des bénédictions qui viennent de Dieu est un principe éternel. Comme les Israélites d'autrefois, pour être bénis, nous devons, nous aussi, agir selon notre foi en Jésus-Christ. Dieu a révélé le principe suivant. Il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation du monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Cela dit, on ne gagne pas une bénédiction. Cette notion est fausse. Mais nous devons nous qualifier pour la recevoir. Notre salut ne vient que par les mérites et la grâce de Jésus-Christ. L'immensité de son sacrifice expiatoire signifie que le tas de bois est infini. Nos piètres actions sont proches du zéro en comparaison. Mais elles ne sont pas zéro. Et elles ne sont pas insignifiantes. Dans la nuit, une allumette allumée se voit à des kilomètres. En fait, elle se voit dans les cieux, car de petits actes de foi sont nécessaires pour déclencher les promesses de Dieu. Pour recevoir de Dieu une bénédiction souhaitée, agissez avec foi, frottant ainsi l'allumette métaphorique dont la bénédiction céleste dépend. Par exemple, l'un des buts de la prière est d'obtenir des bénédictions que Dieu est disposé à accorder, mais que nous devons demander pour les obtenir. Alma a imploré de recevoir la miséricorde et qu'il soit mis à un terme à ses souffrances. Il a cessé d'être déchiré par le souvenir de ses péchés. Sa joie a dépassé sa douleur. Tout cela parce qu'il a imploré Jésus-Christ avec foi. L'énergie d'activation que nous devons avoir consiste à faire suffisamment preuve de foi en Christ pour prier Dieu sincèrement et accepter sa volonté et son calendrier comme réponse. Souvent, l'énergie d'activation nécessaire pour les bénédictions demande davantage que simplement chercher et demander. Elle exige des actes remplis de foi continus et répétés. Au milieu du 19e siècle, Brigham Young a demandé à un groupe de saints des derniers jours d'aller explorer l'Arizona, région aride d'Amérique du Nord, et de s'y établir. Une fois arrivés sur place, les membres du groupe ont épuisé leurs réserves d'eau et craignaient de mourir. Ils ont supplié Dieu de les aider. Peu après, il a plu et neigé, ce qui leur a permis de remplir leurs tonneaux et de préserver leur bétail. Reconnaissants et revigorés, ils sont rentrés à Salt Lake City en louant Dieu pour sa bonté. Une fois rentrés, ils ont rapporté les détails de leur expédition à Brigham Young et indiqué qu'ils en avaient conclu que l'Arizona était inhabitable. Après avoir écouté leur rapport, Brigham Young a demandé à un homme dans la pièce ce qu'il pensait de l'expédition et du miracle. Cet homme, Daniel W. Jones, a répondu de manière laconique : j'aurais fait le plein, j'aurais repris la route et j'aurais encore prié. Frère Brigham a posé la main sur frère Jones et a dit : voilà l'homme qui sera en charge du prochain voyage en Arizona. Nous nous souvenons tous de moments où nous sommes allés de l'avant, avons encore prié et avons reçu des bénédictions. Les expériences de Michael et de Marianne Holmes illustrent ces principes. Michael et moi avons servi ensemble comme 70 d'interrégion. J'étais heureux chaque fois qu'on lui demandait de prier lors de nos réunions, parce que sa profonde spiritualité était manifeste et qu'il savait comment parler à Dieu. J'aimais l'entendre prier. Pourtant, au début de leur mariage, Michael et Marianne ne priaient pas et n'allaient pas à l'église. Ils étaient accaparés par leurs trois jeunes enfants et une entreprise de construction florissante. Michael avait l'impression de ne pas être un homme religieux. Un soir, leur évêque leur a rendu visite et leur a recommandé de commencer à prier. Lorsque l'évêque les a quittés, Michael et Marianne ont décidé d'essayer. Avant d'aller se coucher, ils se sont agenouillés au pied de leur lit et, mal à l'aise, Michael a commencé. Après quelques mots maladroits, il s'est arrêté brusquement et a dit « Marianne, je n'y arrive pas ». Comme il se relevait et était sur le point de partir, Marianne lui a pris la main l'a forcé à se remettre à genoux et a dit, « Mike, tu peux le faire. Essaye encore. » Grâce à cet encouragement, Michael a terminé sa courte prière. Les Holmes ont commencé à prier régulièrement. Ils ont accepté l'invitation d'un voisin d'aller à l'église. Quand ils sont entrés dans la salle de culte et ont entendu le cantique d'ouverture, l'esprit leur a murmuré. C'est vrai. Plus tard, à l'insu de tous et sans qu'on le lui demande, Michael a aidé à débarrasser des déchets à l'église. Tandis qu'il le faisait, il a eu un sentiment distinct. Ceci est ma maison. Michael et Marianne ont accepté des appels dans l'église et ont servi dans leur paroisse et dans leur pieu. Ils ont été scellés l'un à l'autre et à leurs 3 enfants. Ils ont eu d'autres enfants, 12 en tout. Les Holmes ont été appelés à présider une mission à 2 reprises. La première prière maladroite était une action, petite mais pleine de foi, qui a déclenché les bénédictions du ciel. Les Holmes ont nourri la flamme de la foi en assistant aux réunions et en servant. Tandis qu'ils étaient des disciples dévoués au fil des ans, la flamme est devenue un feu dévorant qui inspire aujourd'hui encore. Cependant, un feu doit être constamment alimenté en oxygène pour que le bois finisse par délivrer tout son potentiel. Comme l'ont démontré Michael et Marianne Holmes, la foi en Christ nécessite des actions continues pour que le brasier reste vivace. De petites actions alimentent notre capacité de marcher sur le chemin des alliances et mènent aux plus grandes bénédictions que Dieu peut offrir. Mais l'oxygène n'arrive que si nous continuons, au sens figuré, à bouger les pieds. Parfois, nous devons fabriquer un arc et une flèche avant que la révélation nous dise où nous devons chercher notre nourriture. Parfois, nous devons fabriquer des outils avant que la révélation nous dise comment construire un bateau. Parfois, sous la direction du prophète du Seigneur, nous devons préparer un petit gâteau avec le peu d'huile et de farine qui nous reste, avant de recevoir une cruche d'huile et un pot de farine qui ne diminue pas. Et parfois, nous devrons rester calmes, savoir qu'il est Dieu et avoir confiance en son calendrier. Quand vous recevez une bénédiction de Dieu, vous pouvez en conclure que vous avez respecté la loi éternelle qui permet que cette bénédiction vous soit octroyée. Mais n'oubliez pas que la loi irrévocablement décrétée n'a pas de date limite, ce qui signifie que les bénédictions arrivent selon le calendrier de Dieu. Même les prophètes d'autrefois qui cherchaient leur demeure céleste sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Si vous n'avez pas reçu de Dieu une bénédiction que vous désirez, pour l'instant, vous ne devez pas vous affoler en vous demandant ce que vous devez faire de plus. Au contraire, suivez le conseil de Joseph Smith de faire de bon gré tout ce qui est en votre pouvoir. Alors, tenez-vous là avec la plus grande assurance pour voir le bras de Dieu se révéler. Certaines bénédictions sont réservées pour plus tard, même pour les enfants de Dieu les plus vaillants. Il y a 6 mois, un plan centré sur le foyer et soutenu par l'Église pour apprendre la doctrine, fortifier la foi, les personnes et les familles, a été présenté. Le président Nelson a promis que ces changements nous aideront à survivre spirituellement, à avoir une plus grande joie dans l'Évangile et à approfondir notre conversion à notre Père Céleste et à Jésus-Christ. Mais c'est à nous de mériter ces bénédictions. Chacun de nous a la responsabilité d'ouvrir et d'étudier le manuel « Viens et suis-moi » pour les personnes et pour les familles, ainsi que les Écritures et les autres manuels du programme « Viens et suis-moi ». Nous devons en faire l'objet de discussions en famille, avec nos amis, et organiser notre jour du sabbat pour allumer métaphoriquement un feu. Ou bien nous pouvons laisser cette documentation entassée chez nous, avec, emprisonnée à l'intérieur, l'énergie potentielle qu'elle contient. Je vous invite à activer fidèlement le pouvoir du ciel afin de recevoir des bénédictions spécifiques de Dieu. Exercez votre foi pour frotter l'allumette et allumer le feu. fournissez l'oxygène nécessaire tout en servant patiemment le Seigneur. En plus de ces invitations, je prie pour que le Saint-Esprit vous guide et vous dirige, afin qu'à l'instar de la personne fidèle décrite dans Proverbes, vous soyez comblés de bénédictions. Je témoigne que notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, vivent et se soucient de votre bien-être et qu'ils se réjouissent de vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
De mon bureau du bâtiment de la société de secours, j'ai une vue parfaite sur le temple de Salt Lake City. Chaque soir, à la tombée de la nuit, aussi régulièrement qu'une horloge, les lumières extérieures s'allument. Le temple est un phare immuable et rassurant, juste en face de ma fenêtre. Un soir de février dernier, après le coucher de soleil, mon bureau est resté sombre contrairement à l'habitude. Comme je regardais par la fenêtre, j'ai vu le temple dans l'obscurité. Les lumières ne s'étaient pas allumées. Je me suis tout à coup sentie triste. Je n'arrivais pas à voir les flèches du temple que j'apercevais chaque soir depuis des années. Voir l'obscurité, là où je m'attendais à voir la lumière, m'a rappelé que l'un de nos besoins fondamentaux pour progresser est de rester lié à Jésus-Christ, notre Rédempteur. Il est la source de notre énergie, la lumière et la vie du monde. Sans un lien fort avec lui, nous commençons à mourir spirituellement. Satan le sait et essaye d'exploiter les pressions du monde que nous subissons. Il s'emploie à faire baisser notre lumière, de court-circuiter l'alimentation et de nous laisser seuls dans l'obscurité. Ces pressions sont des situations courantes de la condition mortelle, mais Satan s'acharne à nous isoler et à nous faire croire que nous sommes les seuls à les vivre. Certains d'entre nous sont paralysés par le chagrin. Quand des tragédies nous frappent, quand la vie nous fait mal au point que nous n'arrivons plus à respirer, quand, comme l'homme sur la route de Jéricho, nous sommes battus et laissés pour mort, Jésus vient près de nous et verse de l'huile sur nos blessures. Il nous relève tendrement, nous conduit dans une auberge et prend soin de nous. À ceux d'entre nous qui sont plongés dans le chagrin, il dit « J'allégerai les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos, afin que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens en faveur de mon peuple dans ses afflictions. Le Christ guérit les blessures. » Certains d'entre nous sont tout simplement à bout de force. Frère Roland a dit « Il n'est pas requis que nous courions plus vite que nous n'avons de force. » Cependant, je sais que beaucoup d'entre vous courent très vite et que votre énergie et vos ressources émotionnelles affichent parfois un niveau très bas. Lorsque nous sommes submergés par les attentes, faisons une pause et demandons à notre Père Céleste celle que nous devons abandonner. Notre expérience de la vie consiste, entre autres, à apprendre ce que nous n'avons pas à faire. Mais malgré tout, la vie peut parfois être exténuante. Le Sauveur a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Christ est disposé à se joindre à notre joug et à tirer avec nous pour que notre fardeau soit plus léger. Le Christ est le repos. Certains d'entre nous ont le sentiment de ne pas entrer dans le moule traditionnel. Pour différentes raisons, nous ne nous sentons pas acceptés ou acceptables. Le Nouveau Testament montre les grands efforts que Jésus a faits pour aller vers toutes sortes de personnes. Lépreux, collecteurs d'impôts, enfants, galiléens, prostituées, femmes, pharisiens, pêcheurs, samaritains, veuves, centurions romains, adultères, personnes rituellement impures. Dans presque chaque histoire, il tend la main à quelqu'un qui n'est traditionnellement pas accepté par la société. Luc 19 raconte l'histoire du chef des publicains de Jéricho qui s'appelait Zachée. Il était monté sur un arbre afin de voir Jésus passer. Il était employé du gouvernement romain et était considéré comme une personne corrompue et un pécheur. Jésus l'a remarqué perché dans l'arbre et l'a appelé en disant « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Quand Jésus a vu la bonté dans le cœur de Zachée et ce qu'il faisait pour les autres, il a accepté son offrande en disant « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Le Christ a dit tendrement aux Néphites « J'ai commandé qu'aucun de vous ne s'en aille. » Pierre a eu cette puissante révélation dans Actes 10 quand il a déclaré « Dieu m'a permis à ne regarder aucune personne comme souillée et impure. » faire preuve d'un véritable amour les uns pour les autres était requis des disciples du Christ et l'est encore des saints des derniers jours. Jésus nous lance la même invitation que celle qu'il a lancée à Zachée. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous m'entendez, ma voix est et ouvrez la porte, j'entrerai chez vous, je souperai avec vous et vous avec moi. Le Christ nous voit dans notre arbre. Certains d'entre nous ont des questions qui les déstabilisent. Il n'y a pas tant d'années que cela, j'étais accablée et irritée à cause des questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Un samedi matin, de bonne heure, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu un kiosque de jardin et j'ai compris que je devais y aller. Sur son pourtour, il y avait 5 arches, mais les fenêtres étaient en pierre. J'ai protesté, ne voulant pas entrer, parce que j'allais me sentir claustrophobe. Puis, la pensée m'est venue que le frère de Jared avait patiemment fait fondre des pierres pour faire du verre. Le verre n'est autre que de la pierre qui a subi un changement d'état. Quand le Seigneur a touché les pierres préparées par le frère de Jared, elles ont diffusé une lumière dans l'obscurité des bateaux. Soudain, j'ai été remplie du désir d'être dans ce kiosque plus que nulle part ailleurs. C'était l'endroit, le seul endroit où je pouvais vraiment voir. Les questions qui me tracassaient n'avaient pas disparu, mais en me réveillant, j'en avais une clairement à l'esprit. Comment vas-tu augmenter ta foi, comme le frère de Jared, pour que les pierres se transforment en lumière? Notre cerveau mortel est fait pour chercher à comprendre par petites étapes. Je ne connais pas toutes les raisons pour lesquelles le voile de la mortalité est si épais. Cette étape de notre développement éternel n'est pas celle où nous avons toutes les réponses. C'est une étape au cours de laquelle nous développons notre assurance, ou parfois notre espérance, des choses qu'on ne voit pas. Nous recevons l'assurance de manières qui ne sont pas toujours faciles à analyser, mais il y a de la lumière dans notre obscurité. Jésus a dit, « Je suis la lumière et la vie et la vérité du monde. » Pour les personnes qui cherchent la vérité, cela peut ressembler au début à la claustrophobie insensée provoquée par les fenêtres en pierre. Mais si nous avons de la patience et posons des questions pleines de foi, Jésus peut transformer la pierre de nos fenêtres en verre et en lumière. Le Christ est la lumière qui permet de voir. Certains d'entre nous pensent qu'ils ne sont jamais assez bons. Dans l'Ancien Testament, la couleur cramoisie était non seulement vive, mais aussi grand teint, c'est-à-dire qu'elle tenait sur la laine et ne passait pas, quel que soit le nombre de lavages. Satan utilise ce raisonnement comme une massue. Une laine blanche avec des taches écarlates ne redevient jamais blanche. Mais Jésus a déclaré, « Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix ». Le miracle de sa grâce est tel que, si nous nous repentons de nos péchés, son sang écarlate nous rend notre pureté. Ce n'est pas logique, néanmoins, c'est vrai. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le Seigneur a souligné, celui ou celle qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Pour le dire autrement, venez et raisonnons. Vous avez commis des fautes, tout le monde en commet. Venez à moi et repentez-vous. Je ne me souviens plus de vos péchés. Vous pouvez guérir. J'ai une œuvre à vous confier. Le Christ rend la laine blanche. Mais quelles sont concrètement les étapes? Quelle est la clé pour nous lier à nouveau au pouvoir de Jésus-Christ lorsque nous vacillons? Le président Nelson l'a dit très simplement, la clé est de faire des alliances sacrées et de les respecter. Ce n'est pas un chemin compliqué. Faites du Christ le centre de votre vie. Si vous avez l'impression que la lueur de votre témoignage vacille et que l'obscurité commence à vous enserrer, prenez courage. Respectez les promesses que vous avez faites à Dieu. Posez vos questions. Faites fondre patiemment la pierre pour en faire du verre. Tournez-vous vers Jésus-Christ, il vous aime. Et il a dit, « Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas. » Cela signifie que malgré toute la pression qu'elle exerce, l'obscurité ne peut pas éteindre cette lumière. Jamais. Vous pouvez être assuré que sa lumière sera là pour vous. Il se peut que nous, ou des êtres chers, soyons temporairement dans l'obscurité, dans le cas du, temple de Salt Lake City, le responsable des biens immeubles, frère Val White, a immédiatement reçu un coup de téléphone. Des personnes avaient remarqué ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas au niveau des lumières du temple? Premièrement, les techniciens ont fait personnellement le tour de tous les tableaux électriques du temple et ont rallumé manuellement les lumières. Ensuite, ils ont rempli les batteries de l'alimentation électrique automatique et les ont testées pour trouver l'origine de la panne. C'est difficile de rallumer nos lumières seules. Nous avons besoin d'amis, nous avons besoin les uns des autres. Tout comme le personnel technique du temple, nous pouvons nous aider mutuellement en étant présents physiquement, en rechargeant nos batteries spirituelles, en réparant ce qui est défectueux. Comme Temple Square à l'époque de Noël, nous ne sommes peut-être qu'une ampoule sur un arbre. Mais notre petite lumière brille et, tous ensemble, nous pouvons attirer des millions de personnes vers la maison du Seigneur. Par-dessus tout, comme nous a encouragé le faire le président Nelson, par le simple fait de respecter nos alliances, nous apportons la lumière du Sauveur tant à nous-mêmes qu'aux personnes qui sont importantes pour nous. De bien des manières, le Seigneur récompense cette fidélité en accordant du pouvoir et de la joie. Je témoigne que vous êtes aimés. Le Seigneur sait les efforts que vous faites. Vous faites des progrès. Continuez. Il voit tous vos sacrifices cachés et les compte pour votre bien et pour celui de vos êtres chers. Votre travail n'est pas vain. Vous n'êtes pas seul. Son nom même, Emmanuel, signifie « Dieu avec nous ». Assurément, il est avec nous, avec vous. Faites quelques pas de plus sur le chemin des alliances, même s'il fait trop sombre pour y voir loin. Les lumières se rallumeront. Je témoigne de la véracité des paroles de Jésus, paroles qui sont remplies de lumière. Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence, et vous me trouverez. Demandez, et vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, nous sommes à une époque unique et cruciale de l'histoire. Nous avons la bénédiction de vivre dans la dernière dispensation qui précède la seconde venue du Sauveur. En 1829, vers le début de cette dispensation, environ un an avant que l'Église soit officiellement organisée, nous avons reçu une révélation qui nous est chère, annonçant qu'une œuvre merveilleuse était sur le point de s'accomplir. Cette révélation spécifiait que les personnes désireuses de servir Dieu se qualifiaient par la foi, l'espérance, la charité et l'amour, l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. La charité, qui est l'amour pur du Christ, comprend l'amour éternel de Dieu pour tous ses enfants. Mon but ce matin est de mettre l'accent sur le rôle essentiel de ce genre d'amour dans l'œuvre missionnaire, l'œuvre de l'histoire familiale et du temple, et de l'observance religieuse familiale centrée sur le foyer et soutenue par l'Église. Notre amour pour le Sauveur et notre amour pour nos semblables sont les premières caractéristiques et motivations du service pastoral et des objectifs spirituels que notre prophète bien-aimé, Russell M. Nelson, nous a demandé d'accomplir lors des changements annoncés en 2018. J'ai été exposé à la relation qui existe entre l'œuvre missionnaire et l'amour très tôt dans ma vie. À l'âge de 11 ans, j'ai reçu une bénédiction patriarcale d'un patriarche qui était aussi mon grand-père. Cette bénédiction disait entre autres « Je te bénis d'un grand amour pour tes semblables, car tu seras appelé à porter l'Évangile au monde pour amener des âmes au Christ. » Je comprenais déjà à ce jeune âge que la diffusion de l'Évangile était basée sur un grand amour pour tous les enfants de notre Père Céleste. Nous, les autorités générales chargées d'élaborer le programme « Prêcher mon Évangile » il y a 15 ans, avons conclu que l'amour était essentiel à l'œuvre missionnaire à notre époque, comme cela a toujours été le cas. Le chapitre 6 relatif aux vertus chrétiennes, notamment la charité et l'amour, a toujours été le chapitre le plus apprécié des missionnaires. En qualité d'émissaire du Sauveur, la plupart des missionnaires éprouvent ce genre d'amour. Et quand c'est le cas, leurs efforts sont bénis. Si les membres acquièrent la vision d'un tel amour, qui est essentiel pour assister le Seigneur dans ses desseins, son œuvre s'accomplira. J'ai eu l'honneur de jouer un petit rôle dans un exemple merveilleux de ce genre d'amour. Alors que j'étais le président de l'interrégion des îles du Pacifique, j'ai reçu un appel de Wayne Chute. Dans sa jeunesse, il avait fait une mission au Samoa. Plus tard, il y est retourné en tant que président de mission. Quand il m'a téléphoné, il était alors président du temple d'Apia au Samoa. Tandis qu'il était président de mission, l'un de ses jeunes missionnaires s'appelait O. Vincent Alec, qui est maintenant président de l'interrégion d'Océanie. Président Chute éprouvait un grand amour et un grand respect pour Vince et toute la famille Alec. Presque toute la famille était membre de l'Église. Cependant, Otto Alec, de descendance allemande et samoane, et père de Vincent et patriarche de la famille, ne l'était pas. Le président Chute, sachant que j'assistais à une conférence de pieux et à d'autres réunions au Samoa américaine, m'a demandé si j'accepterais de demeurer dans la maison d'Otto Alec avec la perspective de lui parler de l'Évangile. Ma femme Marie et moi avons demeuré avec Otto et sa femme Dorothy dans leur belle maison. Au petit déjeuner, j'ai donné un message sur l'Évangile et invité Otto à rencontrer les missionnaires. Il a refusé aimablement mais fermement mon invitation. Il a dit qu'il était content que beaucoup de membres de sa famille soient membres de l'Église. Mais il a souligné avec force que certains des ancêtres de sa mère samoan avaient été parmi les premiers pasteurs chrétiens au Samoa et qu'il éprouvait une grande loyauté à l'égard de leur foi chrétienne traditionnelle. Néanmoins, nous nous sommes quittés, bons amis. Plus tard, quand le président Hinckley se préparait à consacrer le temple de Suva au Fidji, il a demandé à son secrétaire personnel, Don Staley, de me téléphoner en Nouvelle-Zélande pour prendre les dispositions nécessaires. Le président Hinckley voulait prendre l'avion des îles Fidji au Samoa pour rencontrer les saints. Un certain hôtel réservé lors d'une visite précédente a été suggéré. Je lui ai demandé si je pouvais prendre des dispositions différentes. Frère Staley a répondu, « Il n'y a pas de problème, vous êtes le président de l'interrégion. » J'ai immédiatement appelé le président Chute et lui ai dit que nous avions peut-être là une seconde chance de bénir spirituellement notre ami Otto Alec. Cette fois, le missionnaire serait le président Gordon Hinckley. J'ai demandé s'il pensait que cela conviendrait que les Alec hébergent tous ceux d'entre nous qui faisaient partie du groupe de voyage du président Hinckley, frère et sœur Hinckley, leur fille Jane, ainsi que frère et sœur Holland qui participaient au voyage. Frère Chute s'est mis en relation avec la famille pour prendre toutes les dispositions nécessaires. Quand nous sommes arrivés des Fidji, après la consécration du temple, nous avons été chaleureusement accueillis. Nous nous sommes adressés ce soir-là à des milliers de membres samoans. Puis, nous nous sommes rendus dans la demeure de la famille Alec. Lorsque nous nous sommes réunis pour le petit déjeuner le lendemain matin, le président Hinckley et Otto Alec étaient déjà devenus de bons amis. J'ai trouvé intéressant de voir qu'ils avaient une conversation assez semblable à celle que j'avais eue avec Otto plus d'un an auparavant, lorsque celui-ci a exprimé son admiration pour notre Église, mais a réaffirmé sa loyauté à son Église actuelle. Le président Hinckley a posé la main sur son épaule et lui a dit « Otto, cela ne suffit pas. Vous devez être membre de l'Église. C'est l'Église du Seigneur. » On aurait pu voir tomber de manière figurative l'armure de défense d'Otto, qui s'ouvrait à ce que le président Hinckley disait. Cela a marqué le début d'un enseignement missionnaire complémentaire et d'une humilité spirituelle qui ont permis à Otto Alec d'être baptisé et confirmé un peu plus d'un an après. Un an plus tard, la famille Alec se faisait sceller pour l'éternité dans le temple. Ce qui m'a profondément touché tout au long de cette expérience incroyable, c'est le débordement d'amour lié à l'esprit de service que le président Chute a manifesté à l'égard de son ancien missionnaire, Vincent Alec, ainsi que son désir de voir toute la famille Alec unie pour l'éternité. S'agissant du rassemblement d'Israël, nous devons aligner notre cœur sur ce genre d'amour et remplacer des sentiments de simple responsabilité ou de culpabilité par des sentiments d'amour et par notre participation au partenariat divin pour l'annonce au monde du message du Sauveur et à prendre part à son ministère et à sa mission. En tant que membre de l'Église, nous montrons notre amour pour le Sauveur et nos frères et sœurs du monde entier en lançant de simples invitations. Le nouveau programme des réunions du dimanche donne aux membres une occasion exceptionnelle et efficace d'inviter avec amour leurs amis et leurs collègues à venir voir et à ressentir ce qu'est l'Église. Une réunion de la Sainte Cène spirituelle, en espérant qu'elle soit tout aussi sacrée que l'a décrit Elder Holland hier, est suivie d'une réunion de 50 minutes portant sur le Nouveau Testament et le Sauveur, ou sur des discours de conférences pertinents portant également sur le Sauveur et sa doctrine. Certaines sœurs de la Société de Secours se demandent pourquoi elles ont reçu la tâche de participer au rassemblement en parallèle avec les membres du Collège de la Prêtrise. Il y a des raisons à cela, et le président Nelson en a donné plusieurs lors de la dernière conférence générale. Il a dit, pour conclure, « Nous ne pouvons tout simplement pas rassembler Israël sans vous ». Nous avons la bénédiction à notre époque que près de 30% de nos missionnaires à plein temps soient des sœurs. Cela fait naître chez les sœurs de la Société de Secours un besoin et une motivation supplémentaire de faire connaître l'Évangile avec amour. Ce qu'il nous faut, c'est un engagement empreint d'amour, de compassion et de spiritualité de la part de chacun d'entre nous, hommes, femmes, jeunes et enfants, pour faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous faisons preuve d'amour, de gentillesse et d'humilité, beaucoup accepteront notre invitation. Ceux qui choisiront de ne pas l'accepter seront toujours nos amis. L'amour est également au centre de notre participation à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple pour rassembler Israël de l'autre côté du voile. Lorsque nous découvrons les épreuves et les difficultés que nos ancêtres ont rencontrées, notre amour et notre reconnaissance envers eux s'en trouvent accrus. Notre participation à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple a été grandement renforcée par les nouveaux changements au niveau du programme des réunions du dimanche ainsi que de l'avancement des jeunes dans les classes et collèges. Ces changements suscitent un intérêt plus fort et plus précoce vis-à-vis de la recherche de nos ancêtres et du rassemblement d'Israël de l'autre côté du voile. L'œuvre de l'histoire familiale et du Temple s'en trouve grandement favorisée. Internet est un outil puissant et le foyer est maintenant notre centre d'histoire familiale principal. Nos jeunes membres sont exceptionnellement doués pour la recherche en histoire familiale et spirituellement motivés pour accomplir des baptêmes pour leurs ancêtres qu'ils ont appris à aimer et à apprécier. Depuis le changement permettant à de nombreux jeunes de 11 ans d'accomplir des baptêmes pour les morts, les présidents de temples du monde entier font état d'une forte augmentation de l'assistance. Un président de temple rapporte « Il y a eu une progression remarquable du nombre de représentants pour les baptêmes et la présence supplémentaire des jeunes de 11 ans amène davantage de familles. Même à leur jeune âge, ils semblent éprouver du respect et entrevoir le but de l'ordonnance qu'ils sont en train d'accomplir. C'est merveilleux à voir. Je sais que nos dirigeants de la primaire et des jeunes fournissent et continueront de fournir de gros efforts au niveau de l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. Les sœurs de la Société de Secours et les frères de la Prêtrise peuvent s'acquitter avec amour de leurs responsabilités vis-à-vis de l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple en y participant individuellement, mais aussi en aidant et en inspirant les enfants et les jeunes à rassembler Israël de l'autre côté du voile. C'est particulièrement important au sein du foyer et durant le jour du sabbat. Je promets qu'en accomplissant les ordonnances pour leurs ancêtres avec amour, nos jeunes et nos familles seront fortifiés et protégés dans ce monde de plus en plus méchant. Je témoigne aussi personnellement que notre président, Russell M. Nelson, a reçu des révélations d'une profonde importance concernant les temples et l'œuvre qui s'y accomplit. Le nouvel accent mis sur l'étude et la mise en pratique de l'Évangile centré sur le foyer, ainsi que la documentation fournie par l'Église, constitue de magnifiques moyens de préparer avec amour les familles éternelles et les personnes à rencontrer Dieu et à vivre avec lui. Quand un homme et une femme sont scellés au temple, ils entrent dans le saint ordre du mariage de la nouvelle alliance éternelle, ordre de la prêtrise. Ensemble, ils obtiennent et reçoivent des bénédictions et le pouvoir de la prêtrise pour diriger les affaires de la famille. Hommes et femmes ont des rôles uniques, comme énoncé dans la famille, déclaration au monde, mais leur intendance est égale en valeur et en importance. Ils possèdent un pouvoir égal de recevoir des révélations pour leur famille. lorsqu'ils œuvrent ensemble dans l'amour et la justice, leurs décisions reçoivent la bénédiction du ciel. Les personnes qui cherchent à connaître la volonté du Seigneur pour elles-mêmes ou pour leur famille doivent s'efforcer d'acquérir la justice, l'humilité, la bonté et l'amour. L'humilité et l'amour caractérisent les personnes qui recherchent la volonté du Seigneur, en particulier en ce qui concerne leur famille. Il est de notre responsabilité individuelle de tendre vers la perfection, de nous qualifier pour les bénédictions liées aux alliances de nous et de nous préparer à rencontrer Dieu. Nous devons être autonomes et activement engagés à faire de notre foyer un refuge contre les tempêtes qui nous environnent et un sanctuaire de foi. Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs enfants avec amour. Les foyers remplis d'amour sont une joie, un délice et littéralement un coin des cieux sur la terre. Le cantique préféré de ma mère était « Dans nos foyers, tout est beau ». Chaque fois qu'elle entendait la première phrase « Dans nos foyers, tout est beau, quand fleurit l'amour », elle était visiblement touchée jusqu'aux larmes. Lorsque nous étions enfants, nous savions que nous vivions dans un bon foyer. C'était l'une de ses priorités les plus élevées. En plus d'une atmosphère aimante au foyer, le président Nelson a souligné la nécessité de limiter l'usage des médias qui perturbent nos objectifs les plus importants. Un ajustement qui profitera à presque toutes les familles est de faire d'Internet, des médias sociaux et de la télévision des serviteurs au lieu d'objets de distraction ou pire, de maîtres. La guerre qui a pour enjeu l'âme de chacun, mais notamment celle des enfants, se mène souvent au sein du foyer. Nous, parents, devons nous assurer que le contenu des médias est à la fois sain, approprié à l'âge et en accord avec le cadre aimant que nous nous efforçons de créer. L'enseignement que nous donnons dans notre foyer doit être clair et convaincant, mais également spirituel, joyeux et plein d'amour. Je promets que si nous nous concentrons sur notre amour pour le Sauveur et son expiation, que nous faisons de lui la pièce centrale de nos efforts pour rassembler Israël des deux côtés du voile, que nous servons les autres et que nous nous préparons individuellement à rencontrer Dieu, l'influence de l'adversaire diminuera. Et la joie, le délice et la paix de l'Évangile élèveront notre foyer dans l'amour du Christ. Je témoigne de ces promesses doctrinales et atteste de façon certaine de Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire pour nous. Au nom de Jésus-Christ, amen.
L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Vrai disciple du Seigneur », le numéro 27 dans le recueil de cantiques français. Après ce chant, nous entendrons Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Tad Callister, qui a été relevé hier après-midi de son appel de président général de l'École du Dimanche.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dans deux semaines, nous célébrerons Pâques. La résurrection confirme la divinité de Jésus-Christ et la réalité de Dieu le Père. Nos pensées se tournent vers le Sauveur et nous méditons sur sa vie sans pareille et sur le pouvoir infini de son grand sacrifice expiatoire. J'espère que nous pensons aussi à son retour proche, quand il règnera et gouvernera en roi des rois et seigneur des seigneurs. Il y a quelque temps, j'ai participé à une conférence avec des dirigeants de confessions religieuses très diverses à Buenos Aires, en Argentine. Leur amour pour leur prochain ne faisait aucun doute. Ils étaient déterminés à soulager la souffrance et à aider les gens à s'élever au-dessus de l'oppression et de la pauvreté. J'ai réfléchi aux nombreuses actions humanitaires de l'Église, y compris aux projets menés en collaboration avec certaines des confessions représentées à cette conférence. J'ai éprouvé une profonde reconnaissance pour la générosité des membres de l'Église de Jésus-Christ et des saints des derniers jours qui rend ce service chrétien possible. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a affirmé deux choses. Premièrement, il est vital de répondre aux besoins temporels et nous devons continuer de le faire. La deuxième chose était inattendue, mais puissante et claire, c'était ceci. Au-delà du service des intéressés, il est capital de préparer le monde pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand il viendra, l'oppression et l'injustice ne diminueront pas seulement, elles cesseront. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La pauvreté et la souffrance ne déclineront pas seulement, elles disparaîtront. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Même la douleur et le chagrin de la mort ne seront plus. Ce jour-là, le nourrisson ne mourra pas avant d'être vieux, et sa vie sera comme l'âge d'un arbre. Et lorsqu'il mourra, il ne dormira pas, c'est-à-dire dans la terre, mais sera changé en un clin d'œil et sera enlevé et son repos sera glorieux. Alors oui, faisons tout ce que nous pouvons pour soulager les souffrances et le chagrin maintenant et consacrons-nous plus diligemment aux préparatifs nécessaires pour le jour où la douleur et le mal prendront fin. Quand le Christ règnera en personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. Ce sera un jour de rédemption et de jugement. L'évêque anglican Durham N.T. Bright a décrit avec pertinence la signification de l'expiation, de la résurrection et du jugement du Christ dans la victoire sur l'injustice et le rétablissement de l'ordre en toutes choses. Il a dit: Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Les faits se rapportant à Jésus de Nazareth, et particulièrement à sa résurrection, sont le fondement de l'assurance que le monde n'est pas le jouet du hasard. En définitive, ce n'est pas un chaos. Ce n'est pas en pure perte que nous agissons avec droiture dans le temps présent. Nous ne sommes pas en train d'étayer un bâtiment qui finira par s'effondrer ou de réparer une voiture qui, en réalité, est destinée à la casse. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus, cela a été l'événement microcosmique dans lequel l'acte macrocosmique ultime de jugement était entièrement contenu, la semence de l'espérance ultime. Dieu a déclaré, de la manière la plus puissante que l'on puisse imaginer, que Jésus de Nazareth était vraiment le Messie. Dans le plus grand paradoxe de l'histoire, Jésus lui-même a subi un jugement cruel et injuste, venant à l'endroit qui symbolisait et cristallisait toutes les myriades de cruautés et d'injustices de l'histoire, pour porter en lui-même ce chaos, ces ténèbres, cette cruauté, cette injustice, et en réduire le pouvoir à néant. Fin de citation. Tandis que je participais à cette conférence à Buenos Aires, l'Esprit m'a montré clairement que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est revêtue du pouvoir et de la mission unique d'accomplir les préparatifs nécessaires pour la seconde venue du Seigneur. En fait, c'est dans ce but qu'elle a été rétablie. Pouvez-vous trouver ailleurs un peuple qui embrasse l'époque actuelle comme étant la prophétique dispensation de la plénitude des temps dans laquelle Dieu a le but de réunir toutes choses en Christ? Si vous ne trouvez pas ici une communauté déterminée à accomplir ce qui doit l'être pour les vivants et pour les morts, pour se préparer pour ce jour-là, si vous ne trouvez pas ici une organisation disposée à consacrer des quantités considérables de temps et de fonds au rassemblement et à la préparation d'un peuple d'alliance prêt à recevoir le Seigneur, vous ne les trouverez nulle part. En 1831, le Seigneur, s'adressant à l'Église, a déclaré « Les clés du royaume de Dieu sont remises à l'homme sur la terre, et c'est de là que l'Évangile roulera jusqu'aux extrémités de la terre. Invoquez le Seigneur pour que son royaume aille de l'avant sur la terre, pour que les habitants de la terre le reçoivent et soient préparés pour les jours à venir où le Fils de l'homme descendra dans les cieux, revêtu de l'éclat de sa gloire, à la rencontre du royaume de Dieu qui est établi sur la terre. » Que faire pour nous préparer maintenant pour ce jour? Nous pouvons nous préparer en tant que peuple. Nous pouvons rassembler le peuple d'alliance du Seigneur. Et nous pouvons aider à racheter les promesses de salut faites au Père, c'est-à-dire à nos ancêtres. Tout ceci doit s'accomplir dans une grande mesure avant le retour du Sauveur. Il est essentiel et crucial pour le retour du Seigneur qu'il y ait sur la terre un peuple prêt à le recevoir à sa venue. Il a dit que ceux qui resteront sur la terre en ce jour, du plus petit au plus grand, seront remplis de la connaissance du Seigneur, verront de leurs propres yeux, élèveront la voix et de leur voix chanteront ensemble ce nouveau cantique. Le Seigneur a ramené Sion. Le Seigneur a tout réuni en un. Le Seigneur a fait descendre Sion d'en haut. Le Seigneur a fait monter Sion d'en bas. Dans les temps anciens, Dieu a pris auprès de lui Sion, la ville juste. Par contraste, dans les derniers jours, une nouvelle Sion recevra le Seigneur à son retour. Sion, c'est ceux qui ont le cœur pur, un peuple qui est d'un seul cœur et d'un seul esprit, qui demeure dans la justice, et parmi lequel il n'y a pas de pauvres. Joseph Smith, le prophète, a déclaré « Notre plus grand but devrait être l'édification de Sion. » Nous édifions Sion dans nos foyers, nos paroisses, nos branches et nos pieux par l'unité, la piété et la charité. Nous devons reconnaître que l'établissement de Sion se produit en des temps tumultueux. Un jour de colère, un jour de feu, un jour de désolation, de pleurs, de deuil et de lamentation. Et la vengeance s'abattra sur toute la surface de la terre comme une tempête, dit le Seigneur. C'est pourquoi le rassemblement dans des pieux est pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur la terre. Tout comme autrefois, nous nous réunissons souvent pour jeûner et pour prier et pour nous parler l'un à l'autre du bien-être de notre âme et pour prendre le pain et l'eau en souvenir du Seigneur Jésus. Comme le président Nelson l'a expliqué lors de la conférence générale d'octobre dernier, l'objectif à long terme de l'Église et d'aider tous ses membres à faire grandir leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en son expiation, à contracter et à respecter leurs alliances avec Dieu et à fortifier et sceller leurs familles. En conséquence, il met l'accent sur l'importance des alliances du temple, du sabbat et du festin quotidien de l'Évangile au foyer, soutenu par un programme d'études unifié à l'Église. Nous voulons acquérir des connaissances sur le Seigneur et nous voulons le connaître. L'effort qui sous-tend l'édification de Sion est le rassemblement du peuple de l'Alliance du Seigneur. Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et au rétablissement des 10 tribus. Quiconque se repent, croit au Christ et se fait baptiser, fait partie de son peuple d'Alliance. Le Seigneur lui-même a prophétisé qu'avant son retour, l'Évangile serait prêché dans le monde entier pour recouvrer son peuple qui est de la maison d'Israël. Alors viendra la fin. La prophétie de Jérémie est en cours d'accomplissement. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël ». Mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père ». Le président Nelson a souligné à maintes reprises que le rassemblement d'Israël est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui. Il a ajouté « Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en grandeur. Et si vous choisissez de le faire, vous pouvez y jouer un rôle important. » Les saints des derniers jours ont toujours été un peuple missionnaire. Des centaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel en mission depuis le début du rétablissement et des dizaines de milliers servent actuellement. Et comme Quentin L. Cook vient de le dire, nous pouvons tous participer de manière simple et naturelle, avec amour, en invitant les gens à se joindre à nous à l'Église, à venir chez nous et à faire partie de notre cercle. La publication du Livre de Mormon était le signal que le rassemblement avait commencé. Le Livre de Mormon lui-même est l'instrument du rassemblement et de la conversion. Une autre chose essentielle à la préparation en vue de la seconde venue est le grand effort rédempteur en faveur de nos ancêtres. Le Seigneur a promis d'envoyer Élie le prophète avant la seconde venue, le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, pour révéler la prêtrise et implanter dans le cœur des enfants les promesses faites au Père. Élie est venu, comme promis. C'était le 3 avril 1836 dans le temple de Kirtland. Dans ce lieu et à ce moment, il a effectivement conféré la prêtrise promise, les clés de la rédemption des morts et de l'union du mari et de la femme et de la famille dans toutes les générations du temps et dans toute l'éternité. Sans cela, le but de la création serait contrarié et dans ce sens, la terre serait frappée d'interdits ou complètement dévastée. Lors de la veillée spirituelle, pour les jeunes qui a précédé la consécration du temple de Rome, les centaines de jeunes gens et jeunes filles présents ont montré au président Nelson les cartes qu'ils avaient préparées avec les noms de leurs ancêtres. Ils étaient prêts à entrer dans le temple pour accomplir des baptêmes par procuration pour ses ancêtres dès qu'il ouvrirait. Cela a été un moment extrêmement gratifiant. Et cependant, ce n'est qu'un exemple de l'effort fait pour accélérer l'édification de Sion pour les générations qui nous ont précédés. Dans nos efforts diligents pour établir Sion, entre autres, en faisant notre part pour rassembler les élus du Seigneur et pour racheter les morts, nous devrions nous arrêter pour nous souvenir que c'est l'œuvre du Seigneur et que c'est lui qui l'accomplit. Il est le Seigneur de la vigne et nous sommes ses serviteurs. Il nous demande de travailler dans la vigne de toutes nos forces une dernière fois et il travaille avec nous. Il serait probablement plus exact de dire qu'il nous permet de travailler avec lui. Paul a dit, à juste titre, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » C'est lui qui hâte son œuvre en son temps. Employant nos efforts, incontestablement imparfaits, nos petits moyens, le Seigneur réalise de grandes choses. Cette grande et dernière dispensation progresse continuellement vers son aboutissement. Sion sur la terre, réunie à la Sion d'en haut, au retour glorieux du Sauveur. L'Église de Jésus-Christ a reçu la mission de préparer et prépare le monde en vue de ce jour. Ainsi, en cette période de Pâques, célébrons véritablement la résurrection de Jésus-Christ et tout ce qu'elle présage. Son retour pour régner pendant 1000 ans de paix, un jugement juste et la justice parfaite pour tous. L'immortalité de quiconque a jamais vécu sur cette terre est la promesse de la vie éternelle. La résurrection du Christ est l'assurance ultime que tout sera remis en ordre. Œuvrons à établir Sion pour hâter ce jour. au nom de Jésus-Christ. Amen.
En cette période de l'année, nous méditons particulièrement sur l'expiation du Sauveur et nous nous en réjouissons. C'est véritablement la doctrine la plus grandiose, la plus épanouissante pour l'esprit et la plus exaltante que le monde et l'univers aient jamais connue. C'est ce qui donne l'espérance et un sens à notre vie. Qu'est-ce donc que l'expiation de Jésus-Christ ? Dans un sens, c'est une série d'événements divins qui a commencé dans le jardin de Gethsémané, s'est poursuivie sur la croix et a été parachevée par la résurrection du Sauveur. Elle était motivée par un amour incompréhensible pour chacun de nous. Elle nécessitait un être sans péché qui avait un pouvoir infini sur les éléments, y compris sur la mort, qui possédait une capacité sans limite de souffrir les conséquences de tous nos péchés et de toutes nos maladies et qui, en fait, est descendu au-dessous de tout cela. C'était là la mission de Jésus-Christ. C'était son expiation. Mais quel en était le but ? C'était de nous permettre de retourner dans la présence de Dieu, de devenir davantage semblable à lui et d'avoir une plénitude de joie. Cela s'est fait en surmontant 4 obstacles. Premièrement, la mort physique. Deuxièmement, la mort spirituelle causée par Adam et par nos péchés. Troisièmement, nos afflictions et nos infirmités. Et quatrièmement, nos faiblesses et nos imperfections. Mais comment le Sauveur peut-il accomplir cela sans transgresser les lois de la justice ? Imaginez un instant un homme qui, envisageant l'effet grisant d'une chute libre, prend la décision inconsidérée de sauter d'un petit avion. Après l'avoir fait, il se rend vite compte de la folie de son geste. Il veut atterrir sain et sauf, mais il y a un obstacle, la loi de la gravité. Il agite les bras à une vitesse stupéfiante, espérant voler, mais en vain. Il place son corps dans une position telle qu'il puisse flotter ou planer. Mais la loi de la gravité est implacable et impitoyable. Il essaye de raisonner avec cette loi naturelle fondamentale. « C'était une erreur, je ne le referai plus jamais. » Mais ses supplications restent sans effet. La loi de la gravité est dépourvue de compassion. Elle ne fait pas d'exception. Mais soudain, l'homme sent quelque chose dans son dos. Dans l'avion, son ami, sentant venir son coup de folie, lui a attaché un parachute juste avant qu'il ne saute. Il trouve la poignée d'ouverture et la tire. Soulagé, il descend en flottant vers le sol. On pourrait demander, la loi de la gravité a-t-elle été enfreinte ? Ou le parachute a-t-il fonctionné dans le cadre de cette loi pour permettre à l'homme d'atterrir sain et sauf ? Quand nous péchons, nous sommes semblables à l'homme insensé qui a sauté de l'avion. Quoi que nous fassions par nous-mêmes, nous sommes sûrs de nous écraser. Nous sommes assujettis à la loi de la justice qui, telle la loi de la gravité, est stricte et impitoyable. Nous ne pouvons être sauvés que parce que le Sauveur, dans sa miséricorde, nous fournit une sorte de parachute spirituel par son sacrifice expiatoire. Nous avons foi en Jésus-Christ et nous repentons, ce qui veut dire que nous faisons notre part et tirons sur la poignée d'ouverture. Alors, les pouvoirs protecteurs du Sauveur sont déclenchés en notre faveur et nous pouvons atterrir spirituellement indemnes. Mais cela n'est possible que parce que le Sauveur a vaincu les 4 obstacles qui nous empêchent de progresser spirituellement. Premièrement, la mort. Il a vaincu la mort par sa résurrection glorieuse. L'apôtre Paul a dit, « Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Deuxièmement, le péché. Le Sauveur a vaincu le péché et la culpabilité pour toutes les personnes qui se repentent. Son pouvoir purificateur est si puissant et si pénétrant qu'Ésaïe a promis, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Il m'est arrivé de rencontrer de bons membres de l'Église qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes, qui ont innocemment mais incorrectement fixé des limites au pouvoir rédempteur du Sauveur. Sans le vouloir, ils ont transformé une expiation infinie en une expiation limitée, qui est insuffisante pour leurs péchés ou leurs faiblesses particuliers. Mais c'est une expiation infinie parce qu'elle comprend et englobe tout péché et toute faiblesse, ainsi que tous ses vices et toute souffrance infligée par autrui. Truman Matson a fait cette remarque réconfortante. « S'il y en a parmi vous qui ont été trompés par la conviction qu'ils sont allés trop loin, que le poison du péché les empêche définitivement d'être ce qu'ils auraient pu être, alors entendez-moi. Je témoigne que vous ne pouvez pas sombrer si profondément, que vous soyez hors d'atteinte de la lumière et de l'intelligence sans faille de Jésus-Christ. Je témoigne que tant qu'il y a une étincelle de volonté de se repentir et de se tourner vers lui, il est là. Il ne s'est pas seulement abaissé à votre condition, il est descendu au-dessous d'elle, afin d'être en tout et à travers tout la lumière de la vérité. Fin de citation. Une des raisons pour lesquelles il est si essentiel de comprendre l'expiation du Sauveur et ses implications infinies est qu'une plus grande compréhension s'accompagne d'un plus grand désir de pardonner à soi-même et aux autres. Bien que nous puissions croire au pouvoir purificateur du Christ, une question se pose souvent. Comment savoir si j'ai reçu le pardon de mes péchés? Si nous ressentons l'Esprit, nous avons là le témoignage que nous avons été pardonnés ou que le processus de purification est en cours. Henri Eyring a dit, « Si vous avez ressenti l'influence du Saint-Esprit, c'est une preuve que l'expiation agit dans votre vie. » Des personnes ont demandé, « Si j'ai reçu le pardon, pourquoi est-ce que je me sens toujours coupable ?» Peut-être que dans la miséricorde de Dieu, le souvenir de cette culpabilité est un avertissement, une sorte de panneau stop spirituel qui, au moins provisoirement, nous alerte quand une tentation similaire se présente devant nous disant « N'emprunte pas cette route. Tu connais la souffrance qu'elle peut apporter. » Dans ce sens, elle sert de protection et non de punition. Est-il donc possible de nous souvenir de nos péchés et d'être cependant libérés de la culpabilité? Alma se souvenait de ses péchés, même des années après s'être repenti. Mais quand il a supplié Jésus d'être miséricordieux, il a dit « Je ne puis plus me souvenir de mes souffrances. Oui, je n'étais plus déchiré par le souvenir de mes péchés. » Comment pouvait-il se souvenir de ses péchés mais ne pas éprouver de la souffrance ou de la culpabilité? Parce que quand nous nous repentons, nous sommes nés de Dieu. Comme le disent les Écritures, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. En étant parfaitement honnête, nous pouvons dorénavant dire « Je ne suis pas l'homme ou la femme qui a commis ses péchés passés. Je suis un être nouveau et transformé. » Troisièmement, les afflictions et les infirmités. Alma a fait cette prophétie. Le Christ ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Pourquoi? Afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Comment le fait-il? Parfois, il ôte l'affliction. Parfois, il nous fortifie pour que nous la supportions. Et parfois, il nous donne une perspective éternelle pour que nous puissions mieux en comprendre la nature temporaire. Après avoir croupi pendant près de 2 mois dans la prison de Liberty, Joseph Smith s'est écrié « Ô Dieu, où es-tu ?» Au lieu de lui accorder une délivrance immédiate, Dieu a répondu « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. » Joseph comprenait maintenant que cette expérience amère n'était qu'un point sur l'étendue de l'éternité. Fort de cette vision améliorée, il a écrit aux membres de l'Église depuis la même cellule de prison. « Frères tendrement aimés, faisons de bon gré tout ce qui est en notre pouvoir. Alors, nous pourrons nous tenir là avec la plus grande assurance pour voir le salut de Dieu. » Grâce à l'expiation du Sauveur, nous pouvons avoir une perspective éternelle qui donne du sens à nos épreuves et l'espérance de notre délivrance. Quatrièmement, les faiblesses et les imperfections. Grâce à son expiation, le Sauveur a un pouvoir habilitant, parfois appelé grâce, qui nous aide à surmonter nos faiblesses et nos imperfections et ainsi nous aide dans notre quête pour devenir davantage semblable à lui. Moroni a lancé cette exhortation. « Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui afin que par sa grâce vous soyez parfaits dans le Christ. » Il semble qu'il y ait au moins 2 canaux ou moyens de nous prévaloir de ce pouvoir habilitant qui peut nous raffiner et même nous rendre parfaits. Premièrement, les ordonnances salvatrices. Les Écritures nous disent « Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances ». Parfois, il nous arrive de penser aux ordonnances comme à une liste récapitulative nécessaire à l'exaltation, mais en vérité, chacune d'elles libère un pouvoir divin qui nous aide à devenir davantage semblable au Christ. Par exemple, lorsque nous sommes baptisés et que nous recevons le don du Saint-Esprit, nous sommes purifiés, devenant ainsi plus saints à l'image de Dieu. De plus, grâce au Saint-Esprit, notre esprit est éclairé et notre cœur adouci de sorte que nous pouvons penser et nous sentir davantage comme lui. Et lorsque nous sommes scellés en tant qu'époux, nous héritons du droit, des trônes, des royaumes, des principautés, des puissances comme don de Dieu. Un deuxième canal d'accès à ce pouvoir habilitant est constitué par les dons de l'Esprit. Grâce à l'expiation du Christ, nous sommes éligibles pour recevoir le don du Saint-Esprit et les dons spirituels qui l'accompagnent. Ces dons sont des attributs de la divinité. Par conséquent, chaque fois que nous acquérons un don de l'Esprit, nous devenons davantage semblables à Dieu. C'est indubitablement la raison pour laquelle les Écritures nous enjoignent à de nombreuses occasions de rechercher ces dons. George Cannon a dit « Personne ne devrait dire « Oh, je n'y peux rien, c'est ma nature ». Ce n'est pas une justification, car Dieu a promis de donner des dons qui élimineront nos faiblesses. Comme nous ne sommes pas parfaits, notre devoir est de prier pour demander le don qui nous rendra parfaits. En résumé, l'expiation du Sauveur nous donne la vie au lieu de la mort, un diadème au lieu de la cendre, la guérison au lieu de la blessure et la perfection au lieu de la faiblesse. C'est l'antidote céleste aux obstacles et aux difficultés de ce monde. Au cours de sa dernière semaine, dans la condition mortelle, le Sauveur a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Parce que le Sauveur a accompli son expiation, il n'y a aucune force, ni personne, ni événement extérieur, ni péché, ni mort, ni divorce, qui puisse nous empêcher d'atteindre l'exaltation, à condition que nous respections les commandements de Dieu. Fort de cette connaissance, nous pouvons marcher résolument, avec courage, et l'assurance absolue que Dieu est avec nous dans cette quête céleste. Je témoigne que l'expiation du Sauveur étend ses effets non seulement à l'infini, mais aussi de manière individuelle, qu'elle peut non seulement nous ramener en présence de Dieu, mais aussi nous permettre de devenir semblables à lui, ce qui est le but suprême de l'expiation du Christ. J'en rends mon témoignage reconnaissant et sûr, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants des magnifiques messages que nous avons entendus et des chants édifiants que nous a interprété le chœur du tabernacle ce matin. Le chœur interprétera maintenant « Rocher du salut suprême ». Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Viens et suis-moi ». Ensuite, Jane Bingham, présidente générale de la Société de secours, fera la prière de clôture. Thank you.
Mes frères et sœurs bien-aimés, ma femme Wendy et moi, nous réjouissons d'être avec vous en ce matin de jour de sabbat. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière conférence générale. De nouveaux temples ont été consacrés à Concepción au Chili, Barranquilla en Colombie et à Rome en Italie. Nous avons connu un abondant déversement de l'esprit lors de ces événements sacrés. Je félicite les nombreuses femmes et hommes qui ont récemment lu le livre de Mormon et y ont trouvé de la joie et des trésors cachés. Je suis inspiré par leur récit de miracles reçus. Je m'émerveille devant les jeunes gens de 11 ans qui, maintenant qu'ils sont diacres, distribuent dignement la Sainte Cène chaque dimanche. Ils vont au temple avec nos jeunes filles de 11 ans qui s'empressent d'ores et déjà d'apprendre et de servir en tant qu'abeilles. Jeunes gens et jeunes filles prêchent les vérités de l'Évangile avec clarté et conviction. Je me réjouis avec les enfants et les jeunes qui participent à l'enseignement de l'Évangile dans leur foyer en collaborant avec leurs parents pour suivre le programme centré sur le foyer soutenu par l'Église. J'ai reçu cette photo de Blake, 4 ans, qui, de bonne heure un samedi matin, attrapait un livre de l'Église et s'est exclamé « Je dois nourrir mon esprit ». Blake, nous sommes enchantés que toi et d'autres choisissiez de nourrir votre esprit en vous faisant un festin des vérités de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Et nous sommes ravis que de nombreuses personnes reçoivent la puissance de Dieu dans leur vie en l'adorant et en servant dans le temple. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a 3 mois, notre famille a connu une séparation très émouvante lorsque notre fille Wendy a quitté cette vie. Au cours des derniers jours de son combat contre le cancer, j'ai eu la bénédiction de pouvoir avoir notre conversation d'adieu, père-fille. Je lui ai pris les mains et lui ai dit combien je l'aimais et combien j'étais reconnaissant d'être son père. J'ai dit, tu t'es marié au temple et tu as fidèlement honoré tes alliances. Ton mari et toi avez accueilli 7 enfants dans votre foyer et les avez élevés de telle sorte qu'ils sont devenus des disciples dévoués de Jésus-Christ, de vaillants membres de l'Église et des citoyens qui apportent leur contribution à la société. De plus, ils ont choisi des conjoints de la même envergure. Ton papa est très, très fier de toi. Tu m'as apporté beaucoup de joie. Elle a doucement répondu, merci, papa. Cela a été un moment de grande émotion et de larmes pour nous. Pendant les 7 ans qu'elle a vécu, nous avons travaillé ensemble, chanté ensemble et souvent skié ensemble. Mais ce soir-là, nous avons parlé des choses qui importent le plus, telles que les alliances, les ordonnances, l'obéissance, la foi, la famille, la fidélité, l'amour et la vie éternelle. Notre fille nous manque beaucoup. Néanmoins, grâce à l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, nous ne sommes pas inquiets pour elle. En continuant d'honorer nos alliances avec Dieu, nous vivons dans l'attente de la retrouver. Entre-temps, nous servons le Seigneur ici. Elle le sert là-bas, au paradis. En fait, au début de l'année, ma femme et moi sommes allés à Paradise, à savoir Paradise, paradis, en Californie. Il s'est trouvé que notre visite programmée en ce lieu tombait moins de 40 heures après que notre fille a quitté ce monde. Les saints du pieu de Chico, en Californie, nous ont soutenus, ainsi que Kevin Pearson et sa femme June qui nous accompagnaient. Nous avons été informés de leur grande foi, de leur service et des miracles qui se sont produits même au milieu de leurs pertes accablantes suite à l'incendie de forêt le plus destructeur de l'histoire de la Californie. Pendant que nous étions là, nous avons longuement parlé avec John, un jeune agent de police qui a fait partie des nombreux premiers intervenants courageux. Il s'est remémoré les ténèbres épaisses qui sont descendues sur Paradise le 8 novembre 2018, lorsque les flammes et les braises filaient à toute allure à travers la ville, dévorant les propriétés et les biens comme un fléau, et ne laissant que des monceaux de cendres et des cheminées de briques nues. Pendant 15 heures, John a conduit à travers une obscurité impénétrable, zébré de javelots de braises menaçantes, pour mettre en sécurité personne après personne et famille après famille, le tout au péril de sa vie. Pourtant, durant cette rude épreuve, ce qui l'épouvantait le plus était sa question lancinante. Où est ma famille? Après de nombreuses et longues heures terrifiantes, il a enfin appris qu'elle était en sécurité et évacuée. Le récit du souci de John pour sa famille m'a poussé à parler aujourd'hui à ceux d'entre vous qui, approchant la fin de votre vie dans la condition mortelle, se demandent « Où est ma famille ?» Le jour futur où vous achèverez votre mise à l'épreuve terrestre et entrerez dans le monde des esprits, vous serez confronté à cette question déchirante. Où est ma famille? Jésus-Christ enseigne le chemin qui ramène à notre foyer éternel. Il comprend le plan de progression éternelle conçu par notre Père Céleste mieux qu'aucun de nous. Après tout, il en est la clé de voûte. Il est notre Rédempteur, notre Guérisseur et notre Sauveur. Du jour où Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Jésus le Christ a offert son bras puissant pour aider toutes les personnes qui décident de le suivre. À maintes reprises, les Écritures rapportent qu'en dépit de toutes sortes de péchés commis par toutes sortes de personnes, son bras est toujours étendu. L'Esprit en chacun de nous aspire naturellement à un amour familial qui dure éternellement. Les chansons d'amour perpétuent le faux espoir qu'il suffit de s'aimer pour être ensemble à jamais. Et certains croient erronément que la résurrection de Jésus-Christ offre la promesse que tout le monde sera avec ses êtres chers après la mort. En réalité, le Seigneur lui-même a très clairement dit que, bien que sa résurrection assure à quiconque a jamais vécu qu'il ressuscitera en effet et vivra à jamais, beaucoup plus est exigé de nous si nous désirons la grande bénédiction de l'exaltation. Le salut est une affaire individuelle, mais l'exaltation, elle, est une affaire familiale. Écoutez ces paroles adressé par le Seigneur Jésus-Christ à son prophète. Tout contrat, alliance, convention, obligation, serment, vœu, acte, union, association ou attente qui ne se font pas et ne sont pas contractés et scellés par le Saint-Esprit de promesse n'ont aucune validité, vertu ou force dans et après la résurrection d'entre les morts. Car tous les contrats qui ne sont pas faits dans ce sens prennent fin quand les hommes sont morts. Alors, qu'est-il requis d'une famille pour qu'elle soit exaltée éternellement? Nous nous qualifions pour cette bénédiction en contractant des alliances avec Dieu, en les respectant et en recevant les ordonnances essentielles. Il en est ainsi depuis le début des temps. Adam et Noé, et Ève, Noé et sa femme, Abraham et Sarah, Léhi et Saria, et tous les autres disciples dévoués de Jésus-Christ depuis la création du monde ont contracté les mêmes alliances avec Dieu. Ils ont reçu les mêmes ordonnances que nous, membres de l'Église rétablie du Seigneur aujourd'hui. Nous recevons lors du baptême et dans le temple. Le Sauveur invite tout le monde à le suivre dans les eaux du baptême et, en temps voulu, à contracter des alliances supplémentaires avec Dieu dans le temple, ainsi qu'à recevoir ses autres ordonnances essentielles et à y être fidèles. Elles sont toutes requises pour que nous soyons exaltés avec notre famille et avec Dieu à jamais. Mon cœur se serre en pensant aux nombreuses personnes que j'aime, j'admire et respecte, qui déclinent son invitation. Elles ne tiennent pas compte des supplications de Jésus-Christ lorsqu'il nous appelle en disant « Viens et suis-moi ». Je comprends pourquoi Dieu pleure. Je pleure aussi pour ses amis et ses parents. Ce sont des hommes et des femmes merveilleux, dévoués à leur famille, à leurs responsabilités civiques. Ils donnent généreusement de leur temps, de leur énergie et de leurs moyens. Et le monde est meilleur grâce à leurs efforts. Néanmoins, ils ont choisi de ne pas faire alliance avec Dieu. Ils n'ont pas reçu les ordonnances qui les exalteront avec leur famille et les lieront ensemble à jamais. Comme j'aimerais bavarder avec eux et les inviter à réfléchir sérieusement aux lois habilitantes du Seigneur. Je me suis demandé ce que je pourrais bien dire pour qu'ils sentent combien le Sauveur les aime, sachent combien je les aime et prennent conscience que les femmes et les hommes qui respectent leurs alliances reçoivent une plénitude de joie. Il faut qu'ils comprennent que, bien qu'il y ait un lieu pour eux ensuite, avec des hommes et des femmes merveilleux qui aussi ont choisi de ne pas contracter d'alliance avec Dieu, ce n'est pas celui où les familles seront réunies et auront la bénédiction de vivre et de progresser éternellement. Ce n'est pas le royaume où ils connaîtront une plénitude de joie, de progression et de bonheur sans fin. Ces bénédictions suprêmes ne s'obtiennent qu'en vivant dans un royaume céleste exalté avec Dieu, notre Père éternel, son Fils Jésus-Christ et les merveilleux membres de notre famille qui sont dignes et se sont qualifiés. J'ai envie de dire à mes amis réticents, dans cette vie, vous ne vous êtes jamais contenté du deuxième choix. Pourtant, en refusant d'embrasser pleinement l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, vous décidez de vous contenter du deuxième choix. Le Seigneur a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Cependant, en décidant de ne pas contracter d'alliance avec Dieu, vous allez vous contenter d'un piètre toit au-dessus de votre tête pendant toute l'éternité. J'adresserai ensuite cette supplication à mes amis réticents. Et penchez votre cœur à Dieu. Demandez-lui si ces choses sont vraies. Prenez le temps d'étudier ses paroles. Étudiez-les vraiment. Si vous aimez sincèrement votre famille et si vous désirez être exalté avec elle tout au long de l'éternité, payez le prix maintenant par une étude sérieuse et des prières ferventes pour connaître ces vérités éternelles et ensuite les respecter. Si vous n'êtes même pas sûr de croire en Dieu, commencez par là. Comprenez qu'en l'absence d'expérience avec Dieu, on peut douter de son existence. Mettez-vous donc dans une position qui vous permette de vivre des expériences avec lui. Humiliez-vous. Priez pour voir sa main dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Demandez-lui de vous dire s'il est vraiment là, s'il vous connaît Demandez-lui ce qu'il éprouve à votre égard. Ensuite, écoutez. Un de mes amis chers de ce genre avait peu d'expérience avec Dieu, mais il aspirait à être avec son épouse décédée. Il m'a demandé de l'aider. Je l'ai encouragé à rencontrer nos missionnaires afin de comprendre la doctrine du Christ et qu'il lui explique les alliances, les ordonnances et les bénédictions de l'Évangile. Il l'a fait, mais il lui a semblé que le chemin qu'il lui conseillait exigerait de lui trop de changements. Et il a dit, « Ces commandements et ces alliances sont trop difficiles, sont simplement trop durs pour moi. Il m'est impossible de payer la dîme. Je n'ai pas le temps de servir dans l'Église. » Ensuite, il m'a demandé, « Une fois que je serai mort, fais, je t'en prie, l'œuvre du temple nécessaire pour que ma femme et moi puissions de nouveau être ensemble. » Heureusement, je ne suis pas le juge de cet homme. Mais je m'interroge sur l'efficacité de l'œuvre du temple par procuration pour un homme qui a eu la possibilité de se faire baptiser dans cette vie, d'être ordonné à la prêtrise et de recevoir les bénédictions du temple pendant qu'il était ici-bas, mais qui a pris délibérément la décision de rejeter ce chemin. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous invite à suivre le chemin des alliances pour rentrer chez nos parents célestes et être avec nos êtres chers. Il nous lance l'invitation, « Viens et suis-moi ». Maintenant, en qualité de président de son Église, je supplie vous, les personnes qui se sont éloignées de l'Église et celles qui n'ont pas encore vraiment cherché à savoir si l'Église du Sauveur était rétablie, de faire les efforts spirituels nécessaires pour le découvrir personnellement et de les faire maintenant. Il ne reste que très peu de temps. Je témoigne que Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église et la plénitude de son Évangile ont été rétablies pour nous donner la joie dans la vie et des bénédictions énormes ici-bas et dans l'au-delà. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père Céleste, nous sommes si reconnaissants pour la fondation ferme de l'Évangile de Jésus-Christ que nous avons entendu dans la bouche de tes serviteurs aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour ton amour qui est déversé sur nous, où que nous soyons et dans n'importe quelle situation que nous soyons. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions de l'Évangile dans nos vies et nous prions pour que nous fassions les choix pour que nous puissions jouir des bénédictions. Nous te prions pour que tu nous aides à partager notre amour et notre lumière avec ceux autour de nous, avec ceux qui sont préparés pour la seconde venue de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons pour ces bénédictions et te remercions pour tes bénédictions. Et ce faisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 189th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.